Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant télé avec Clémenceau, la force d'aimer. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Je vais te parler d'un film, d'une histoire d'amour entre Georges Clémenceau et Marguerite Baldensperger. Ça s'appelle Clémenceau, la force d'aimer. Et c'est vraiment très beau. Quand on sait que il y a eu un échange de lettres, de nombreuses, de centaines et de centaines et de centaines de lettres entre ces deux protagonistes, et des lettres enflammées, des lettres qui marquaient un peu le coup aussi, qui étaient un peu rentre-dedans, d'ailleurs, de dire bon, on fait bien les choses, ou écris-moi plus souvent. Je trouve que c'est très beau, et en même temps il y a une marque aussi du temps, une marque de l'histoire de Georges Clémenceau avec l'aspect politique. Mais Tiffaine, dis-nous, de quoi ça parle ?
Marguerite, mariée et mère de famille, est restée inconsolable face à une tragédie dans sa vie. Le pacte que lui propose Clémenceau, « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir », dépasse le temps et la mort. Ils scellent leur relation dans un tourbillon d'énergie vitale, de joie et de passion. Rien ne les prédestinait à s'entendre, il est aussi colérique et tempétueux qu'elle est discrète et réservée. D'après le récit, « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » de Nathalie de Saint-Cricq.
Et pour parler de ce merveilleux film qui m'a vraiment pris à bras-le-corps avec cette histoire d'amour, j'ai l'honneur d'avoir au téléphone Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce merveilleux livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » ?
Bien, écoutez, en lisant un certain nombre de biographies de Clémenceau, puisque c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup, et en faisant ça dans le cadre de mon travail, autant que dans le cadre de mon plaisir pour les femmes le 11 novembre qu'on présente sur France 2, je suis tombée sur trois phrases à la fin d'une biographie, disant, puis Clémenceau prend sa retraite, il rencontrera une femme d'une quarantaine d'années et sa cadette, il lui écrira 668 lettres, et ils vivront un amour intense. Et je me dis, c'est quand même étrange, quoi. 80 ans, 668 lettres, et je me dis, c'est à côté de Clémenceau qu'on ne connaît pas bien. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher dans toutes les biographies si on y faisait référence. J'ai cherché du côté de la famille de la dame en question. Je suis tombée sur ses petits-enfants qui avaient des archives, et j'ai essayé de reconstruire et de reconstituer toute cette histoire, sachant que les 668 lettres envoyées à Marguerite par Clémenceau, on les a, et donc on n'a pas celle de Marguerite parce qu'elle a demandé à Clémenceau de les brûler par décence
d'une femme
mariée. Et à partir de là, j'ai reconstitué sa vie. J'ai retrouvé des tonnes et des tonnes de choses sur elle, des photos, des histoires. Ses enfants et ses petits-enfants m'ont raconté tout ce qu'ils pouvaient me raconter. Voilà.
Mais vous avez pu lire une des lettres ?
J'ai lu toutes les lettres.
Toutes les lettres ?
Wow. Toutes les lettres, mais elles ont été éditées en 70, mais elles sont passées inaperçues.
Et oui.
Elles ont été éditées chez Gallimard. Et alors, il y en a qui sont courtes, il y en a qui sont longues, mais il n'y en a aucune qui n'est parte, si j'ose dire. Elles sont... Et il devenait complètement obsédé par ses lettres, c'est-à-dire qu'il allait harceler le facteur tous les jours pour voir si elle lui répondait. Et c'était 2 litres de lettres par jour. Et elle lui répondait, quand elle lui répondait pas, il hurlait. Et c'était des lettres magnifiques, mais pas magnifiques au sens béat. C'est-à-dire magnifique, avec des formules comme « Depuis que vous êtes partie, madame, il tombe de la neige morale chez moi. » Ou alors « Vous me demandez d'attendre les beaux jours m'attendront-ils » Il y a des formules, il y a des... Ou quelquefois, il l'engueule parce qu'il trouve qu'elle ne lui a pas assez écrit. Et il dit « Si Shakespeare avait vécu comme vous, il n'aurait jamais écrit Hamlet. » Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait tellement de formules choc et tellement de passion dans ses lettres. Ou alors, quand il s'énerve parce qu'il la trouve pas assez tendre ou impétueuse, il lui dit « Je suis l'Etna et vous êtes la banquise ». Voilà, plein de choses.
Donc, ah oui, ça, en effet, c'est les contraires.
Voilà, et c'est pas simplement des trucs d'amitié amoureuse. Je pense qu'il ne s'est rien passé entre eux au sens charnel du terme. Enfin, bon. Mais c'est du vrai amour, c'est pas...
Ah non, c'est un véritable amour, c'est ouais, incroyable. Et c'est retranscrit merveilleusement dans le film, quoi. On voit ces deux acteurs qui sont vraiment sublimissimes. Pierre Arditi qui interprète Georges Clemenceau et Émilie Caen qui interprète Marguerite Baldens-Berger. C'est assez fou, le jeu de regard, ces petites choses, les petits sourires, les petites mains, enfin on voit que c'est vraiment cet amour, quoi. C'est un amour très fort entre eux.
Ouais, et puis en plus ils ont quasiment la vraie différence d'âge dans le film que dans la vie. C'est exactement ça. On a tourné là où ça s'est passé. On est dans la maison de Clémenceau à Paris, enfin la maison, l'appartement.
Oui.
On est à Giverny, chez Monet. On est à Saint-Vincent-sur-Jeure en Vendée. Et on a rajouté, bien évidemment, même pas rajouté, mais on a laissé présent aussi un peu de politique. Parce que Clémenceau, c'est certes un amoureux transi à 82 ans, mais il continue à se passionner pour la politique, à hurler contre Foch, Poincaré.
Poincaré, oui.
Quand il dirait que la guerre n'est pas préparée. Et on est en 29 quand il y a son secrétaire. Avant 10 ans, nous aurons la guerre. Marté, qui est le nom de son secrétaire. Donc, il y a un dosage dans le téléfilm. Je dis ça pour pas que les gens aient peur que ce soit une espèce de bluette, un truc, genre histoire d'amour. Il y a tout. Il y a du tonus, il y a des choses drôles, il y a de la politique. Mais il y a de la politique à la façon de Clémenceau. C'est-à-dire des grandes tirades, des bons mots. Comme quand il dit, Félix Faure meurt et qu'il dit, en entrant dans le néant, il va se sentir chez lui. Vous voyez, il y a plein de petites saillies comme ça. On a essayé de faire un mélange entre le Clémenceau politique, le Clémenceau tombeur de ministère, celui qu'on appelait l'Attila des gouvernements, parce qu'il flinguait tous les gouvernements.
Et le tigre.
Troisième République, et puis son grand amour, le grand amour de ces derniers jours.
Ah oui, non, mais on ressent bien hein, le tigre tout le long du film. On ressent cette fougue aussi bien... du côté amoureux que du côté politique où j'aime beaucoup la j'en ris encore parce que je revois la scène où il présente Poincaré à Marguerite en Vendée où il dit oui. Mais oui voici le Poincaré de Vendée.
C'est un âne.
C'est tout à fait ça, c'est ouais, très très drôle.
En fait, il avait deux ânesses. Et il les avait appelés Henriette, qui était le nom de la femme de Poincaré. Et alors, j'ai un trou, l'autre, c'était le nom de la maîtresse de Gambetta. Et de toute façon, il a passé sa vie à faire des trucs comme ça. ça le faisait hurler de rire. Et vous savez, il dit quelque chose à un moment donné, dans ses livres. Il dit, quand on est jeune, c'est pour toujours. C'est-à-dire que ce qui est frappant chez lui, c'est que cet esprit potache au gamin, il l'ait eu jusqu'à ces dernières années. C'est-à-dire, il continue, et il y a une histoire qui est connue à l'Assemblée, où comme il y avait un député qui l'agaçait parce qu'il passait son temps à manger et à apporter de la nourriture dans l'hémicycle, et qui trouvait que c'était inconvenant, il était arrivé un jour avec une petite fiasque dans laquelle il y avait du porto, et il s'était mis derrière lui, il lui avait glissé dans le cou en lui disant, comme ça vous aurez le liquide qui va avec la nourriture. Alors, faire ça à 70 ans, si vous voulez. Je trouve ça génial, voilà.
Ah oui, non mais il manquait pas de piquant, et puis on a une scène très forte aussi de punchline entre Aristide Briand, qui est joué par Serge Riaboukine, et lui, tout ouais. À fait.
Mais bon.
Et puis en plus, il montre vraiment ce côté pointu avec Marguerite qui est à côté, qui à un moment se dit, bon, il exagère, et d'un autre, elle est complètement de son avis et de son côté.
Elle est heureuse parce que c'est une femme dont le mari, comme s'est mis à voyager à suite d'un drame qu'on ne dévoilera pas
non.
Aux gens qui nous écoutent. Et c'est une femme qui est seule, dont personne ne s'occupe, qui est une très belle femme, intelligente et tout, mais elle passe inaperçue. Personne ne la courtise plus. Donc lui, elle tombe en amour devant Clémenceau, et lui est amoureux de l'amour qu'elle lui porte. Et donc c'est merveilleux à son âge aussi d'avoir une femme si jeune. Donc c'est voilà, chacun y gagne quelque chose. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est peut-être un détail, mais c'est que on a tourné comme si c'était du cinéma, pour, donc pour du cinéma avec des décors, des des décors naturels, des costumes très soignés. Voilà, parce qu'on s'est dit que c'est un film qui n'est pas exactement comme les films qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire c'est pas un polar, c'est pas un film, il n'y a pas de violence, c'est pas de sexe, c'est pas tout ça. Mais on s'est dit que c'était bien de d'offrir aux téléspectateurs quelque chose qui soit comme du cinéma, du vrai cinéma, mais à la télévision. C'est-à-dire que c'est pas du tout méprisant pour les téléfilms, mais c'est ça n'a pas été fait comme un téléfilm. Ça a été fait comme quelque chose sur le grand écran, pour que ce soit et puis pour aussi les gens, que les gens qui regardent puissent voir sa maison, voir Giverny, voir la plage en Vendée, voir tout. Tout en décor naturel, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'aller se balader dans ces endroits-là. Quand à Giverny, il faut réserver ses places pour 2040 pour trouver une place. Voilà. Et on a eu 5 heures de tournage la nuit.
Ah oui, quand même. C'est assez impressionnant.
Ah oui. On a mis même des fausses fleurs.
Quand vous voyez justement sur le tournage des scènes de votre livre prendre vie entre Pierre Arditi et Émilie Caen, ça vous fait quoi la première fois?
Moi j'ai choisi Pierre Arditi, que je connaissais depuis un petit moment, parce que dès le début en l'écrivant je me suis dit il n'y en a pas 36 qui peuvent jouer ce rôle là. Je l'ai appelé dès que j'ai su qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par l'adaptation, je lui ai envoyé le bouquin, je l'ai appelé en lui disant est-ce que ça t'intéresse. Et honnêtement, dans l'adaptation, Émilie pareil, Martouret, je trouvais que c'est une idée géniale. Et honnêtement, dans l'adaptation, j'ai tout. Bon, il y avait un parti pris qui mettait un peu moins de politique que ce que j'en avais mis, de pas remonter au déluge, parce que moi finalement dans le bouquin je remontais au début de la vie de Clémenceau,
oui.
Mais j'ai trouvé ça d'une honnêteté et d'une... J'ai pas trouvé que c'était dénaturé une seconde, parce qu'entre Santa Maria, Lorraine Lévy, Santa Maria qui l'a écrit avec moi, Lorraine Lévy, c'est une finalité absolue.
Oui, vous avez formé un trio de choc sur ce film.
Écoutez, en tout cas, on s'est bien entendu et les choses sont respectueuses, je crois, de Clémenceau, tout simplement. L'idée, c'est même pas faire un film qui ressemble à mon livre, c'est de faire un film qui ressemble à Clémenceau et Marguerite.
Alors, je voudrais parler aussi de moments, de scènes entre Nicolas Pietri, qui est joué par François Levental, et Georges Clémenceau,
oui.
qui sont des scènes de confidence, en fait.
Oui, parce que Pietri a toujours été un homme riche, qui était en extase et en admiration pour Clémenceau, et qui lui a toujours réglé les problèmes qu'il avait. C'est une sorte de confident et de mécène. C'est-à-dire que quand Clémenceau avait des problèmes d'argent, et Dieu sait qu'il en avait tout le temps, parce qu'il avait perdu tout son héritage et tout dans les journaux, puisqu'il créait des journaux tous les deux jours, avant d'être homme politique, et que ces journaux n'étaient pas rentables. Donc Pietri était toujours là pour arranger un petit peu les choses, et c'était un de ses fidèles, quoi. Fidèles, qui recueillait les confidences, c'était quelqu'un qui était toujours là pour lui. Et surtout dans les moments difficiles, dans les moments matériels difficiles. Et Dieu sait si Clémenceau en a eu.
Oui.
Parce que il était très généreux et il refusait d'aller de loger dans les habitats, dans les trucs, dans les agents de fonction. Il a refusé un certain nombre de pensions qui étaient possibles. Il a refusé d'aller à l'Académie française alors qu'on pouvait. Enfin, il refusait tout. Et il vivait dans des conditions très très modestes. Son appartement, il est tout petit, alors que le maréchal Foch avait un hôtel particulier.
Oui, oui, il y a vraiment une différence, notamment quand on parle du maréchal Foch. Moi, je ne peux pas passer à côté de cette scène où il explose devant Marguerite et sa fille, Madeleine.
Ouais.
Et c'est très fort et on sent cette déception. Et le fait de rendre coup pour coup.
Ben oui, c'est-à-dire, si vous voulez, Foch, c'est des mémoires qui n'ont pas grand intérêt, qui ne sont pas polémiques, et il fait une série d'entretiens avec un journaliste, où là, il met en cause Clémenceau, en spécifiant que ce livre doit sortir 2 mois après sa mort. C'est-à-dire que Clémenceau se retrouve traîné dans la boue par Foch à titre posthume. Ce qui est difficile de répondre à quelqu'un qui est mort, parce que ça peut sembler... ou obscène, ou incorrect, ou inconvenant, mais tout ce que dit Foch est d'une telle violence sur Clémenceau, qui lui s'est toujours promis de ne pas raconter la guerre. Parce que quand il écrit ce fameux livre en réponse à Clémenceau, ça s'appelle Grandeur et misère d'une victoire. Donc il y a aussi les petits aspects de la guerre, les choses qui auraient dû se passer différemment. Et il considère que Foch a trahi son serment en balançant des trucs qui en plus sont faux. En gros, pour faire simple, Foch s'attribue tous les mérites de la victoire en considérant que Clémenceau était un vieux gaillard. Voilà. Donc ça ne lui plaît pas. Et il considère que ne pas lui répondre lui ferait autant de mal que lui répondre en termes de fatigue, d'énervement. Et de fait, il finit ce livre et il meurt après.
En tout cas, merci beaucoup pour cette ouverture sur cette histoire. Alors c'est vrai que, oui, on le disait, hein, il y a cette histoire d'amour entre Georges Clémenceau et Marguerite Baldensperger. Je vais y arriver. Mmh. Mais aussi ce côté politique, et c'est vrai que il y a aussi un côté très fort où il est ouvert sur les gens. On le voit en Vendée avec tout ce village qui le connaît, qui il a ses petites habitudes et il connaît chaque prénom et il parle à chaque personne.
Ouais, mais il dit que c'est son pays, c'est son vrai pays, et puis il a été élevé à la campagne. Enfin, c'est un enfant de son père était médecin et avait un peu d'argent, enfin un peu de propriétés, mais c'est un gamin qui a été élevé à l'air libre, qui parcourait les villages, qui connaissait, il était à cheval très très jeune, et c'était vraiment un enfant de la Vendée.
Oui, mais ça se ressent, hein, de manière comment c'est présenté dans le film, c'est très fort. Et je voudrais parler aussi des scènes où il est sur cette plage. Magnifique.
Hmm. Bah oui, c'était la plage qui est juste devant sa maison. On y est allé. On a tourné avec nos moyens en demandant aux gens qui faisaient de la planche à voile de pas se mettre dans le champ. Effectivement, il adorait la pluie, disait-il. Et il faisait entre 6 et 10 km par jour en marchant jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, puis il y a des scènes très drôles en parlant de marché, de sport, avec son coach sportif.
Il a fait de la gymnastique jusqu'à 10 jours de sa mort.
Merci. Alors les gens vont pouvoir découvrir ce film Clémenceau, La force d'aimer, ce lundi 6 novembre à 21h10 sur France 2.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et puis...
Bon Clémenceau, voilà.
Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Je parlais avec Nathalie Saint-Cricq des relations qu'avait Georges Clémenceau, que ce soit houleuse avec certains personnages politiques, mais aussi amicale et respectueuse, notamment de son majordome ou de son chauffeur. Il y a des scènes très drôles avec le chauffeur, je vous laisserai les découvrir, mais c'est vraiment très très fort, surtout quand à un moment, il se fait doubler par un certain personnage et qui se dit « mon Dieu, je vais vraiment très lentement pour faire plaisir à Georges Clémenceau et pour qu'il passe le plus de temps possible avec Marguerite dans la voiture, que le voyage dure indéfiniment comme il me l'a demandé ». Il repère beaucoup de choses et c'est vrai que je trouve que ces scènes sont vraiment très intéressantes. Et puis il y a aussi sa relation avec Clotilde, la personne qui s'occupe de lui chez lui et qui lui fait les repas. Et il a vraiment beaucoup de tendresse. Mais aussi, elle tape du poing sur la table quand il écoute pas et qu'il veut manger quelque chose qu'il n'a pas droit. Donc ça aussi, c'est des belles petites scènes. Je trouve qu'à chaque fois qu'un personnage intègre l'une des scènes, il apporte quelque chose et qu'on le met en valeur. Même le plus petit personnage, je pense notamment aux gens, les villageois. Et je vois très bien le facteur qui lui donne des lettres et il regarde et en même temps il s'inquiète de sa vie. Donc je trouve que voilà, chaque personnage, même un tant soit peu intemporel ou éphémère, apporte vraiment sa touche à l'histoire. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très très bien réalisé par Lorraine Lévy de donner corps et vie au personnage et surtout à l'histoire magnifique entre Marguerite Baldensperger et Georges Clemenceau. Je vous invite à être au rendez-vous ce lundi 6 novembre sur France 2 à 21h10 pour découvrir cette magnifique fresque, ce magnifique film. C'était Chaud devant télé avec Clemenceau, La force d'aimer. Rendez-vous ce lundi 6 novembre, eh bien aujourd'hui à 21h10 sur France 2. Ne ratez pas ce très beau film et surtout ces interprétations incroyables de Pierre Arditi et Émilie Caen. Merci énormément à Nathalie Saint-Cricq d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. You're happy when I'm on my knees.